Les années-lumière, édition du 25 avril 2010. Le président Obama ne promet pas la Lune aux Américains. Il leur propose plutôt d'aller sur Mars. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors cette édition, Sophie André Blondin, elle commence avec vous et avec ce président qui promet Mars à ses commettants.
Oui, en route vers Mars, il y a des astéroïdes, il y a les lunes de Mars, mais il n'y a plus notre lune à nous.
Mathieu Gobeil, boursier Fernand Seguin, vous commencez votre séjour aux années-lumière en faisant non pas de, mais dans l'insomnie.
Ou plutôt dans le sommeil très court, Yannick. Une auditrice veut savoir pourquoi elle n'a besoin que de 4 heures par nuit pour se sentir reposée.
Bonne question. Après ce courrier, nous aurons la chronique des années-lumière avec cette semaine les réflexions d'Hervé Fischer sur les nouveaux médias et la démocratie. Deuxième heure, Hugues de Roussan, il n'y a pas de fumée sans feu, on le sait, ni sans volcan d'ailleurs, et ça on le sait vraiment depuis une dizaine de jours.
Oui, un volcan qui a paralysé une grande partie du trafic aérien en Europe, mais qui a aussi soulevé beaucoup de questions sur la pertinence de clouer les avions pendant une semaine et aussi longtemps.
Un volcan qui a un nom, Hugues?
Oui. Je vous le dirai tout à l'heure.
Nous aurons ensuite Chantal Srivastava, une grande rencontre des années-lumière.
Avec Pierre Rabhi, pionnier de l'agriculture biologique en France, qui s'inquiète de l'avenir de la planète et prône, Yannick, la sobriété heureuse.
Et pour terminer, Sophie André, vous recevrez l'auteur de la semaine.
Jean-Pierre Verdès signe aux origines du monde, une histoire de la cosmogonie, c'est aux éditions du Seuil.
Mais on va commencer donc avec non pas objectif Lune, mais objectif Mars.
By 2025, we expect new spacecraft designed for long journeys to allow us to begin the first ever crewed missions beyond the moon into deep space. We'll start by sending astronauts to an asteroid for the first time in history. I understand that some believe that we should attempt a return to the surface of the moon first. But I just have to say, pretty bluntly here, we've been there before. Buzz has been there.
Alors, Buzz Aldrin, bien sûr, qui est allé sur la Lune et qui était aux côtés de Monsieur Obama, le président américain, donc, qui a dit dans son discours sur l'avenir des vols habités prononcé au Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride que ça valait pas la peine de retourner sur la Lune. Il a aussi promis une première mission d'exploration habitée au-delà de la Lune pour 2025, ça c'est très bientôt, et l'envoi des premières missions humaines sur des astéroïdes, Sophie-André Blondin.
Oui, donc si l'avenir est sur Mars ou s'il est vers Mars, il n'est plus sur la Lune. C'était une stratégie qui avait déjà été suggérée dans le rapport du comité d'experts chargé d'étudier l'avenir du programme américain des vols habités. Stratégie ensuite reprise dans les propositions budgétaires pour la NASA en février dernier et les critiques n'avaient pas tardé. Renoncer à retourner sur la Lune, ce serait priver les États-Unis d'une destination claire, mais surtout prestigieuse. Mettre fin au programme Constellation qui mènerait sur la Lune, ce serait renoncer à des milliers d'emplois, disent donc les critiques. Et puis, le discours prononcé par le président américain au Centre spatial Kennedy se voulait une réponse à ces critiques, une clarification des nouveaux objectifs du nouveau programme des vols habités américains. Alors, pour envisager tout ça avec un certain recul, pour discuter de l'avenir des missions habitées américaines, mais aussi des autres pays impliqués dans l'exploration de l'espace, j'ai invité deux experts dans nos studios de Paris. Isabelle Sourbès-Verger est géographe et est spécialisée en politique spatiale au Centre national de la recherche scientifique à Paris. Et Xavier Pascoe, lui, est chercheur associé au Space Policy Institute à l'Université George Washington aux États-Unis.
Il y a une espèce de réflexion profonde, finalement, sur le sens du programme habité américain qui commence avec l'administration de Barack Obama et qui, d'une certaine manière, mise sur des objectifs à long terme, qui met en avant l'objectif martien à long terme qui disqualifie effectivement la destination lunaire, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on fait la différence aux États-Unis entre des objectifs d'un côté qui ont une valeur un peu stratégique et puis des destinations qui seraient naturelles mais qui ne sont pas nécessairement des objectifs. En ce sens, le discours de Barack Obama reprend tout à fait l'approche qui avait été préconisée par la commission Augustine. Et on a donc, au contraire, un Barack Obama finalement assez offensif qui confirme le fait qu'il veut investir dans des technologies de long terme, dans des technologies qui permettront d'aller beaucoup plus loin, de faire autre chose que ce qui a été déjà fait. Et puis ce discours, il a un autre versant, je dirais, il arrondit un peu les angles localement et donc trouve quelques petits aménagements pour satisfaire à des intérêts de court terme locaux.
Mais Isabelle Sorbès-Vergis, cette destination qui semble naturelle, qui est la Lune, elle est en ce moment très populaire, même si les États-Unis viennent de dire qu'ils n'y retourneront pas avec une mission habitée. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Est-ce que la Lune va perdre de son attrait pour les missions habitées parce que les Américains ne veulent plus y aller? Ou au contraire, elle va en gagner pour les autres pays parce que la compétition est moins féroce?
Alors, je dirais qu'il y a déjà une donnée de base, c'est que la Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Donc, si vous voulez, il est assez logique que lorsqu'on débute dans les programmes d'exploration, avec l'idée, effectivement, de l'exploration habitée, d'envoyer des hommes, eh bien, très naturellement, on pense à la Lune. Donc, que l'on trouve aujourd'hui une sonde japonaise, une sonde chinoise et une sonde indienne qui tournent autour de la Lune, c'est, je dirais, parfaitement logique. C'est les avancées par étapes. Après, moi, je ne pense pas qu'il y ait réellement un effet à la base. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un moment où on va avoir une grille de lecture dictée par la position américaine. Et donc, on a tendance à reprendre aujourd'hui le fait que les Chinois veuillent envoyer une deuxième sonde lunaire autour de la Lune comme finalement un défi que la Chine lancerait aux États-Unis en disant « vous renoncez, mais nous, en revanche, on appuie ». Alors que pas du tout. Cette sonde, elle aurait dû être lancée en 2009. Elle va être lancée en 2010, mais c'est, je dirais, plus le mouvement médiatique et journalistique qui fait la liaison entre les deux et qui, finalement, par le biais des interviews et en redemandant aux responsables du programme chinois ce qu'ils vont faire, qu'on a ce sentiment qu'il y a une réponse et un effet d'annonce. Par ailleurs, on parle très peu du Japon. Bon, le Japon a un très joli programme lunaire. Il y a sur Internet des photos de la Lune en trois dimensions prises par la sonde japonaise, dont on parle finalement très peu, mais qui montre qu'on peut aussi avoir un intérêt à maîtriser des techniques d'exploration, indépendamment d'une descente immédiate de l'homme ou pas, mais qui a son intérêt en soi, quelle que soit l'idée qu'on se fasse de sa position dans le monde. Alors, quant à l'Inde, eh bien, c'est aussi une première étape pour elle. Bon, on va bien voir. De toute façon, elle a elle aussi des ambitions de long terme. Il n'y a pas de course à la Lune véritablement. Il y a en revanche un souci de maîtriser des technologies que les États-Unis ont quand même maîtrisées à la fin des années 60.
Est-ce qu'on verra par contre un autre homme ou une femme sur la Lune? Et d'où viendra-t-il ou d'où viendra-t-elle si on pense en voir?
Alors, c'est une bonne question, mais là aussi, je veux dire, la Russie a ramené des échantillons lunaires sans jamais faire débarquer qui que ce soit sur la Lune. Les Japonais ont un programme dans lequel ils envisagent un robot sur la Lune. Un robot qui d'ailleurs ressemble étonnamment avec la combinaison Armstrong à l'époque, mais qui de fait serait, je dirais, un succès de la technologie japonaise sans que ça soit des hommes. Alors, un Chinois peut-être, dans la mesure où il y a un programme habité. Ça supposerait quand même probablement autre chose que le coût médiatique unique qui consiste à juste poser quelqu'un sur la Lune et puis repartir. Ça, je pense que c'est difficile aujourd'hui à admettre. Les Chinois pensent d'abord à la station, ils pensent effectivement à l'exploration de la Lune. Bon, se posera aussi pour eux la question de Mars, mais les hommes sur Mars, c'est encore un vaste sujet et pas que pour les puissances asiatiques, pour tout le monde. Et dernier point, je pense que s'il y a un retour sur la Lune, on peut aussi envisager des coopérations un petit peu différentes de celles qu'on a connues. Mais récemment, la Russie et l'Inde ont signé des coopérations dans le domaine de l'exploration. Donc pour l'instant, tout est ouvert et à mon avis, tout le monde va réfléchir et prendre le temps de réfléchir.
Il y a même des nouveaux joueurs qui vont s'ajouter. Cette semaine, c'est le Mexique qui annonçait sa propre agence spatiale, une base de lancement au Yucatan, par exemple.
Oui, mais entre le lancement de la base spatiale et la marche d'un homme sur la Lune, je pense qu'il y a quand même encore quelques années. Je ne parierais pas pour le Mexique en premier.
Non. On va rester d'ailleurs dans une orbite un peu plus basse. Xavier Pascaud, Constellation est annulée, mais il va rester un morceau. Vous avez parlé de ces concessions qu'a fait le président Obama à l'industrie régionale. Le morceau qu'il reste de Constellation, c'est la capsule Orion qui va devenir un vaisseau d'évacuation de la Station spatiale internationale. Est-ce que c'est une petite concession pour sauver des emplois ou un compromis vraiment intéressant?
On a un discours qui est d'abord centré, qui est à destination de l'intérieur. Vous remarquerez que dans le discours, il n'y a aucune mention, à aucun moment, de coopération internationale. C'est que ce discours était d'abord à destination du public, de l'opinion publique américaine, et notamment, effectivement, des employés et des gens qui travaillent dans le secteur localement. Et donc, d'une certaine manière, on voit bien qu'on a effectivement un certain nombre de compromis. À mon sens, la réutilisation d'Orion de manière un petit peu réduite, hein, puisqu'on passe de 4 astronautes à 3 astronautes, répond à ces concessions, correspond à ces concessions. D'ailleurs, au passage, on explique qu'on va tirer ça sur un lanceur classique, soit Atlas, soit Delta. Enfin, on voit bien qu'on fait cette concession, mais c'est vraiment pour expliquer qu'on a entendu finalement un peu le message politique. La Floride reste un État clé, on le sait. Ce n'est pas non plus le cœur de l'électorat de Barack Obama. Donc là, on a un ajustement habile, politique, à destination locale. Alors en même temps, il y a un autre point qui concerne cette capsule. C'est assez symbolique, mais c'est l'impression que veut donner Barack Obama que les États-Unis ne resteront pas totalement dépendants des partenaires, notamment des Russes, avec les transports Soyouz. Et d'une certaine manière, on dit, mais vous voyez, si on a besoin de rapatrier nos astronautes une fois à bord, on le fera avec nos moyens, notre capsule, etc. Ce qui me frappe aussi, c'est le retour quand même. On replace le centre de gravité vers la station spatiale. Et là encore, je dirais, deuxième concession, on évoque un horizon qui irait même au-delà de 2020. On parle de 2028. Enfin, des dates sont données qui ne sont pas très claires. Mais là encore, on a l'impression qu'il s'agit d'une deuxième concession. Alors cette fois-ci, plus directement peut-être, à destination du corps des astronautes lui-même, qui a un petit peu rué dans les brancards, si j'ose dire. La raison est bien simple, c'est que les premières annonces avaient un petit point faible quand même, c'était finalement qu'est-ce qu'on fait des astronautes américains après 2020, sachant qu'un corps d'astronautes se prépare des années, voire des décennies auparavant.
Plus d'astronautes, plus souvent dans l'espace, avec cette extension de la vie de la Station spatiale internationale. Barack Obama l'a dit dans son discours, il parle des astronautes américains, Isabelle Sourbès-Verger. Est-ce que ça augmente aussi les possibilités, le champ d'opération, le champ de rêve des astronautes des autres partenaires sur la Station spatiale internationale?
Alors là, sur la station, je dirais que ce sont des accords très anciens hein, qui fixent un petit peu qui sont les partenaires de la station internationale. Et donc, vous avez en premier les Russes, puisque actuellement, ils vont être les seuls à être capables de desservir la station et d'emmener des hommes dans l'espace, et puis pour un certain temps encore de les ramener. Donc les Russes, effectivement, eux, continuent comme... C'est quasiment de la routine hein, pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté la production des capsules, ils les améliorent un peu, et donc qui sont très satisfaits d'avoir un horizon qui s'allonge. Ensuite, vous avez les Européens et les Japonais qui ont toujours été partenaires de la station. Bon, les Canadiens, bien évidemment. Après, les Chinois ou les Indiens, eux, ne sont pas du tout membres de cette coopération internationale. Et c'est bien d'ailleurs une des raisons qui fait que la Chine a développé son programme spatial de manière totalement distincte et avec à la base, je dirais, une expérience russe qui lui a été à la fois vendue et qu'elle a ensuite adaptée. Et de la même façon, on voit bien que l'Inde se tourne aussi vers la Russie. Si il y avait proposition de visite chinoise à bord de la station, ça serait quelque chose d'assez compliqué. Parce que d'une part, certainement les Chinois seraient très fiers de rejoindre véritablement le club des très grandes puissances spatiales et d'être en quelque sorte réintégrés. Alors, ça sera en orbite autour de la Terre, mais enfin, au moins, il retrouverait une place équivalente à celle des autres. En même temps, si c'est un petit peu plus qu'un invité ponctuel et qu'ils doivent prendre part au coût financier de la station, là, je pense qu'il n'y aura absolument aucun accord chinois parce que les montants seraient totalement démesurés par rapport à ce qu'est l'investissement chinois dans le domaine spatial et dans le domaine spatial habité. Il faut bien voir que ce que font les Chinois, ça ressemble à ce que faisaient les Russes et dans une certaine mesure les Américains au tout début de l'ère spatiale.
Alors, on ne peut pas envisager nécessairement soit de laboratoires chinois, de laboratoires indiens qui se grefferaient à cette station spatiale internationale dont la vie serait augmentée jusqu'à... presque 2030, 2028 peut-être.
Techniquement, les Chinois pourraient assez facilement le faire dans la mesure où, comme ils ont un matériel qui est aussi un matériel russe, les systèmes d'amarrage, les colliers sont absolument adaptables. Donc ça, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que cette fameuse station spatiale internationale sous leadership américain, quand même la totalité de ces infrastructures clés sont, elles, de conception russe. Donc ça, c'est étonnant. C'est pas forcément ce à quoi on pense le plus. Donc effectivement, les Chinois pourraient. Quels seraient après l'intérêt des Chinois et surtout comment ils pourraient être intégrés au niveau, je dirais, des accords de partenariat et surtout au niveau de la prise en charge financière? Là, je pense qu'on a un énorme problème.
On va partir plus loin que l'orbite de la Terre. On va partir vers Mars en écoutant un court extrait du président Obama devant les employés de la NASA au Centre spatial Kennedy en Floride.
By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. And I expect to be around to see it.
Le président Obama qui dit que dans le milieu de la décennie 2030, on pourra envoyer des hommes en orbite autour de Mars et les ramener. Ensuite, on pourra même atterrir sur Mars. Et est-ce que le président Obama rêve en couleur? Est-ce qu'il verra de son vivant ses compatriotes sur la planète rouge?
Je dirais que ça fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure la confirmation de ce qui est dit depuis 2 ans, de ce qui a été dit par Augustine, c'est-à-dire qu'on se fixe un grand objectif. Le but de ce type d'affirmation, c'est d'abord de montrer que Barack Obama n'est pas l'homme qui fait sortir les États-Unis du vol habité. Et vous remarquerez que la terminologie qui est employée est très proche de celle du 25 mai 61 par John Kennedy, qui simplement a dit que là, un homme atterrirait, il serait posé sur la Lune et retournerait sain et sauf lui aussi sur Terre avant la fin de la décennie 60. Mais ça, c'est très similaire, j'oserais dire que c'est presque un clin d'œil un peu à l'histoire. Il est clair que Barack Obama, ici, de toute façon, subit un peu le poids de l'histoire et de l'héritage. C'est-à-dire, politiquement, comme l'a dit un grand administrateur de la NASA, aucun président ne pourra sortir les États-Unis du vol habité. C'est quelque chose où vous vous grillez, si j'ose dire, complètement. En tout cas, aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est quand Barack Obama abandonne un peu l'objectif lunaire ou la destination lunaire pour proposer une destination beaucoup plus lointaine qui est celle de Mars. Alors on parle d'abord effectivement d'aller en orbite, on parle du milieu des années 2030, on parle peut-être d'envoyer un homme sur un astéroïde, etc. On n'a pas vraiment de calendrier très bien établi. Et puis on parle beaucoup d'innovation, de technologie qui est nécessaire de maîtriser avant de réaliser le programme, etc. On se rend compte qu'on a une attitude un peu différente de celle qui consiste à se fixer un objectif de court ou de moyen terme et de le réaliser. Et ça, on a l'impression que c'est presque un effet de génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelqu'un finalement qui est né en 61 et qui, d'une certaine manière, dit on ne doit plus faire ça comme on le faisait avant, parce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir, en utilisant de nouvelles technologies, en avançant de façon un petit peu incrémentale, comme ça, on doit pouvoir accéder à des objectifs plus lointains, même si on n'en fixe pas le calendrier. C'est très pratique politiquement, mais ça répond aussi, d'une certaine manière, à une nouvelle vision générale du développement, comme ça, NASA appelle ça en spirale, des programmes spatiaux qui ne sont plus des programmes de mission, qui ne sont plus des one-shot missions. Et ça, c'est presque un effet de génération. Je dirais que là, d'une certaine manière, c'est un petit peu la coupure qu'il y a avec le corps des astronautes qui s'est exprimé, avec un certain nombre de représentants historiques de l'espace américain qui se sont exprimés, qui ne voient pas dans ce discours, finalement, quelque chose qui puisse saisir. Et ça marche dans les deux sens, d'ailleurs. Ils ne voient pas quelque chose qu'ils puissent fondamentalement critiquer non plus. Ce que propose Barack Obama, et c'est en ce sens que je trouve ce discours intéressant et cette position intéressante, on sait qu'elle va être sans doute contestée au Congrès d'abord, et puis d'ici 2030, beaucoup d'administrations succéderont, qui revireront, qui donneront d'autres impulsions. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, en 2010, on a une forme de nouveauté, de tabou, qui a été un petit peu comme ça franchi, et on ne s'interdira plus de parler différemment de l'espace. À ce titre, on peut vraiment comparer le discours de Barack Obama avec celui de George Bush en 2004, par exemple, et la manière dont ça s'est construit. Ce qui me frappe beaucoup dans ce débat actuel, c'est que finalement, c'est un débat ouvert depuis 2 ans. Obama en a parlé, certes de manière modérée, mais il en a quand même parlé pendant la campagne. On a eu cette commission Augustine qui a beaucoup travaillé, qui a été beaucoup controversée. On a eu l'annonce budgétaire, puis on a l'annonce du discours. Donc tout ça a été déjà largement débattu. Si on regarde ce qui s'est passé en 2004, ça s'est fait, je dirais, dans quelques mois au sein de la Maison-Blanche. Il n'y a pas eu de débat public. Il y a là un débat public aujourd'hui. Là, c'est une manière très différente de faire de la politique spatiale, je dirais, aux États-Unis. C'est ça qui me frappe le plus.
On parle d'astéroïdes et on parle des lunes de Mars avant d'aller vers Mars. Pourquoi mentionne-t-on ces étapes?
Alors, c'est sans doute d'un point de vue technique parce que ces étapes sont en fait paradoxalement plus faciles à atteindre dans un premier temps que Mars, en particulier parce que les fenêtres pour les atteindre sont plus nombreuses et parce qu'on sait aussi faire atterrir des engins sur ce type de corps à faible gravité sans atmosphère. Alors qu'en revanche, on sait par exemple, et la commission Augustine a beaucoup insisté sur ce point, que l'un des points techniques qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, qui n'est pas maîtrisé par les États-Unis, c'est de faire atterrir des gros vaisseaux, vaisseaux importants, sur un corps de gravité relativement faible, mais en même temps doté d'une atmosphère. Parce qu'il faut cumuler deux compétences. Il faut à la fois faire du freinage atmosphérique dans une atmosphère très, très ténue pour un gros vaisseau, et en même temps utiliser des rétrofusées, si vous voulez, pour ralentir ce vaisseau. Alors on sait faire l'un, on sait faire l'autre. On sait faire l'autre notamment pour des petits vaisseaux, pour des gros, c'est beaucoup moins net. Et dans le bilan qui est fait des obstacles technologiques majeurs, c'est pas le seul, mais il y a celui-là. Donc Phobos, c'est d'une certaine manière un peu un banc d'essai aussi pour tester d'autres technologies, pour tester du transfert d'ergol dans le vide, ce genre de choses qui sont encore, là encore, pas maîtrisées.
Phobos, l'une des lunes de Mars. Isabelle Sourbès-Verger, M. Pascoe l'a mentionné, pas un mot dans ce dernier discours d'Obama sur les partenaires internationaux, alors que son discours de février ouvrait vers la coopération internationale. Est-ce que vous avez l'impression que les États-Unis se referment un peu sur eux-mêmes?
Oh non, non. Je pense qu'aujourd'hui, comme le disait d'ailleurs Xavier, les États-Unis prennent le temps de réfléchir et, je dirais, font un petit peu d'introspection et fixent leurs objectifs. Et d'une certaine manière, ce n'est pas une mauvaise chose pour la coopération internationale si elle, pendant ce temps, fait un petit peu le même travail. Je crois que c'est très important de prendre le temps de savoir ce que disait déjà le rapport Augustine, finalement, pourquoi on veut faire de l'exploration et comment on veut faire cette exploration. Et tout à l'heure, quand Xavier Pascoe évoquait précisément l'idée d'une approche plus moderne sur l'innovation, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que le jour du discours de Barack Obama, j'ai été regarder sur le site de l'agence de presse chinoise, Xinhua, et il n'insistait pas du tout sur le fait que Obama renonçait à la Lune, etc. C'était pas du tout ça qui était mis en première page. Ce qui était mis en première page, c'était les États-Unis se lance dans un nouveau grand programme de recherche et d'innovation. Et il y avait tout un article chinois en disant « Il faut que nous aussi, on arrive à franchir ce cap-là et il faut que nous aussi, on fasse du spatial innovant. » Et je crois que là, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez, mais le spatial chinois jusqu'à maintenant est un spatial très classique. C'est un spatial où, effectivement, on rattrape des compétences hein, et c'est une étape indispensable. Mais je crois que la Chine mesure bien l'écart qui la sépare du programme spatial américain. Donc oui, la Chine va avoir elle aussi l'idée d'aller sur Mars, mais je trouve très, très intéressant de voir qu'elle se demande elle aussi comment elle pourrait introduire plus d'innovation dans son programme.
Discours important, discours historique, discours de petites concessions, que retiendra-t-on du dernier discours de Barack Obama devant la NASA?
C'est un discours qui marque le retour dans le spatial, dans l'activité spatiale, le retour du débat public. En y réfléchissant récemment, je me disais finalement, la seule période où on a assisté à autant de débats, de controverses en termes de décisions spatiales, c'est à l'époque où Dwight Eisenhower et Lyndon Johnson s'affrontaient sur le fait de créer ou non une NASA. Et on a entre Spoutnik, je dirais, et un petit peu avant Spoutnik, et la création effective en octobre, enfin juillet, et puis entre en vigueur en octobre 58 de la NASA, on a une année comme ça de controverses où beaucoup de choses sont dites, très intéressantes, qu'il faut aller rechercher. Il y a des pépites comme ça dans les débats parlementaires de l'époque. Et quand on regarde ce qui s'est passé là, ce qui me frappe quand vous regardez la presse américaine au lendemain du discours de Barack Obama, c'est qu'on n'a pas de première page sur ce discours et finalement on a des articles très dépassionnés, je dirais, par rapport à ce discours dans la grande presse. Alors c'était pas tout à fait le cas dans les années 57-58, on n'était pas dans le même contexte géostratégique. Lyndon Johnson avait peur des missiles soviétiques qui siffleraient sur sa tête, pour reprendre une expression qu'il avait lui-même empruntée ailleurs. Et donc, toujours est-il qu'il y avait une tension forte, hein, bipartisane, d'opposition entre démocrates et républicains. On n'a pas cette même tension. En revanche, ce qu'on a, c'est quand même, et moi ça me frappe par rapport, on va dire, à toute la période Nixon, puis Carter, Reagan, quand il lance la station spatiale, ou George W. Bush pour parler des choses les plus spectaculaires, on a là une période de débat public, d'ouverture, et donc, effectivement, comme disait Isabelle, d'introspection. En tout cas, ça nous donne cette impression vue de l'extérieur. Ça, c'est sans doute très sain pour le programme américain dans son ensemble, d'ailleurs. Alors, en revanche, effectivement, c'est un risque politique quand même pour Barack Obama, c'est très clair. Moi, je suis assez estomaqué, si j'ose dire, de voir un président prendre quand même ce risque, même si c'est un risque limité, c'est quand même un risque. C'est un risque symbolique. C'est quelque chose qui ne se comprend pas nécessairement sur le court terme, on est en plus en période de crise. Donc, évidemment, il fait quelques concessions pour montrer qu'il va créer de l'emploi, mais ça s'équilibre mal entre les emplois perdus et les emplois créés. Et donc, c'est particulièrement intéressant le fait que ce tabou, malgré tout cela, soit brisé, montre bien qu'on là, on a un effet de génération. On a vraiment quand même peut-être un changement d'époque par rapport au spatial, peut-être une forme de maturité, avec évidemment selon d'inconvénients, et peut-être l'espace manquera-t-il un petit peu de direction comme ça et de calendrier fixé. En tout cas, la communauté spatiale a l'habitude de travailler avec des calendriers, je dirais, fixés au départ et très glissants à l'arrivée. Et là, on a l'impression que c'est un peu l'inverse, c'est glissant au départ, et donc l'industrie va essayer de fixer les échéances beaucoup plus strictement que cela.
On change de génération, Isabelle Sourbès-Verger le dit, Xavier Pascoe. Est-ce qu'on a aussi changé de discours de génération ailleurs dans le monde?
Alors non, pas vraiment, parce que, je dirais, dans le monde, on n'a jamais eu la position extraordinaire des États-Unis. Enfin, on ne peut pas comparer les États-Unis et le reste du monde dans l'activité spatiale. L'investissement à la fois psychologique, financier, le spatial fait partie de l'intérêt national américain sous toutes ses formes. C'est le seul pays au monde où ce soit le cas. Alors après, effectivement, en Russie, le spatial a joué un rôle important, mais toujours très en deçà, je dirais, de la valeur symbolique qu'il avait aux États-Unis. Et il reste aujourd'hui quelque chose qui est là aussi très largement évalué à l'aune de ce qu'il peut rapporter. Alors qu'aux États-Unis, c'était vraiment, et c'est toujours d'ailleurs, une composante de l'identité américaine.
Isabelle Sourbès-Verger, spécialiste de géopolitique spatiale au Centre national de recherche scientifique à Paris, ainsi que Xavier Pascoe, chercheur associé au Space Policy Institute de l'Université George Washington, aux États-Unis, chercheur aussi à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Je vous remercie tous les deux d'avoir réfléchi avec nous sur l'avenir des vols habités.
Merci.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, une réflexion sur l'alimentation et l'avenir de la planète avec un pionnier de l'agriculture biologique, Pierre Rabhi.
La nourriture, c'est tout ce qui entretient la vie. L'air entretient la vie, l'eau entretient la vie, la nourriture terrestre entretient la vie, et c'est tout ça l'alimentation. Et tout est pollué. Alors on peut imaginer une évolution extrêmement négative de la santé publique.
C'est l'heure du courrier des Années-Lumière. Cette semaine, la question nous vient d'un oiseau de nuit qui veut comprendre pourquoi elle a besoin de très peu de sommeil.
Bonjour, ma question concerne le sommeil. C'est qu'à chaque fois que j'entends des chroniques ou des reportages à ce sujet, ils parlent seulement des troubles du sommeil. Moi, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que j'ai juste besoin de 4 heures par jour pour dormir. Puis c'est sûr que je comprends que j'ai un sommeil très profond, là, que je tombe endormie en moins de 10 secondes, mais quand même, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai juste besoin de 4 heures et puis que ça dure depuis plus de 20 ans. De plus, je suis nocturne plutôt que diurne. À chaque fin de semaine, congé, vacances, je me couche lorsque le soleil se lève. Alors, merci à l'avance, Marie la Chauve-Souris de Québec.
Et pour répondre à Marie la Chauve-Souris, notre journaliste stagiaire de la Bourse Fernand Seguin, Mathieu Gobeil, a joint une sommité dans l'étude du sommeil. Le docteur Jacques Monplaisir, professeur de psychiatrie et de neurosciences à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine du sommeil. Mathieu Gobeil lui a demandé si ce cas était surprenant.
Le cas de cette personne ne me surprend pas au départ parce qu'on a plusieurs évidences, même de personnes publiques qui sont des petits dormeurs, c'est-à-dire qui avaient l'habitude de dormir que 4, 5, 6 heures par nuit. En général, on qualifie de petit dormeur quelqu'un qui dort moins de 6 heures au cours d'une nuit. Évidemment, la difficulté, c'est toujours de savoir si vraiment cette personne-là fonctionne très bien pendant la journée, n'a aucun problème, soit de vigilance ou soit de performance. Un des problèmes majeurs, je dirais, avec la question des petits dormeurs, c'est que même chez ceux qui disent bien fonctionner pendant la journée, c'est que le petit dormeur est souvent en restriction de sommeil, mais sur une très longue période, et la personne ne se rend pas compte exactement du manque de sommeil qui s'accumule. Et il y a eu quelques études, par exemple, où on met en laboratoire un petit dormeur et on s'aperçoit que lorsqu'ils sont dans un environnement où ils peuvent dormir à volonté sans savoir exactement la durée de leur sommeil, vont dormir plus longtemps que les horaires de sommeil qu'ils ont lorsqu'ils sont à la maison. On sait que quand on regarde globalement dans une population les petits dormeurs, ils ont plus de maladies cardiovasculaires, ils ont plus de diabète, on l'a fait chez l'enfant par exemple, et on observe que chez les jeunes enfants, même d'âge préscolaire, qui dorment moins de 8 heures dans le cas des enfants, ils ont une plus grande tendance à développer l'hyperactivité. Quand ils entrent à l'école, ils ont des déficits dans certaines tâches psychomotrices. Puis ils ont également un taux plus élevé d'obésité. Mais ceci étant dit, on reste dans ces études épidémiologiques-là, on ne distingue pas toujours bien entre les petits dormeurs qui sont au fond une forme d'insomnie ou de gens qui sont chroniquement privés de sommeil et les gens qui choisissent délibérément de dormir à 4 ou 5 heures et qui se disent parfaitement adaptés à cet horaire-là. Ceci dit, les petits dormeurs ont un sommeil très particulier. Donc, les petits dormeurs ont davantage de ce qu'on appelle du sommeil lent profond, qu'on a généralement en début de nuit. Et ils ont plus de sommeil paradoxal aussi, cette phase de sommeil où habituellement se concentre la grande partie de notre activité onirique, de nos rêves. Donc, ils ont un sommeil un peu en comprimé. Un sommeil comprimé, donc ils ont moins de stades légers de sommeil, de stade 1, stade 2 de sommeil. Donc, pendant très longtemps, on a considéré ça comme normal et même, une chance pour certaines personnes de pouvoir dormir très peu. Actuellement, disons qu'il y a une tendance générale à remettre en question le caractère parfaitement normal et sans danger, sans conséquence de dormir très peu. Mais comme je dis, c'est... Les cas de sujets bien adaptés, on a eu des exemples comme Churchill ou Madame Roosevelt qui étaient des personnages publics qui ont visiblement très bien fonctionné toute leur vie avec des quantités de sommeil extrêmement courtes. Donc, je pense que c'est un débat actuellement, mais on sait que si on réduit la durée totale de sommeil, on entraîne une série de conséquences sur le plan biologique et médical.
Docteur Monplaisir, comment savoir si on dort suffisamment ou pas assez?
Sur le plan personnel, c'est notre fonctionnement pendant la journée. Si on n'éprouve aucune fatigue pendant la journée, comme la personne qui vous a écrit, si on a des performances qui nous apparaissent tout à fait normales, à la fois au travail, dans nos relations sociales, donc on estime qu'on a dormi suffisamment, entre guillemets. C'est sûr qu'en laboratoire, on peut effectuer des tests plus poussés sur des performances, donc pour les mesurer de façon plus quantitative. Donc, ça a été fait dans certains cas où on a vu certains déficits chez les petits dormeurs. Mais il y a une étude, entre autres, où on a vu une supériorité des petits dormeurs. Par exemple, une étude faite à Harvard très récemment, où on regarde la reconnaissance des visages et on s'aperçoit que et on représente une autre série de visages, puis on s'aperçoit que les petits dormeurs performent mieux que les gens qui dorment 7 ou 8 heures et encore mieux que les longs dormeurs. Si on regarde des études épidémiologiques, on s'aperçoit que dans les 30 dernières années, le taux de petits dormeurs a augmenté. On est passé de 6, 7 % à peu près à 9, 10 %. L'augmentation s'est faite de façon assez spécifique chez les gens qui ont des emplois à temps plein. Donc, c'est sûr que l'importance qu'a pris le travail dans la vie des personnes affecte la durée totale du sommeil et l'importance qu'on attribue au sommeil. Les petits dormeurs pourraient être des gens qui sont des types du matin, c'est-à-dire un chronotype d'une personne qui normalement devrait se coucher tôt et se lever tôt. Et le petit dormeur, donc, c'est quelqu'un qui va pas respecter au fond son heure de coucher, qui va se coucher plus tard, mais va continuer à s'éveiller tôt le matin parce que il est probablement de façon génétique déterminé à se lever plus tôt et à être un type du matin.
En conclusion, est-ce que je pourrais dire à chacun son sommeil?
Oui, je pense qu'on peut dire à chacun son sommeil, mais pour les gens qui sont des qui ont une durée de sommeil qui est très, très courte, qui est en bas de 6 heures, je dirais même 6 heures et demie, de vraiment s'interroger sur est-ce que c'est parce qu'ils sont tolérants et qu'ils le font, mais qu'ils ressentent quand même le manque de sommeil, dans lequel cas ils devraient prendre des mesures pour prolonger la durée de sommeil, qui est à consulter pour le faire.
Donc, l'histoire de Marie la chauve-souris n'était pas une histoire à dormir debout. Mathieu Gobeil s'entretenait avec Jacques Monplaisir, professeur de psychiatrie et de neurosciences à l'Université de Montréal. Si vous avez, vous aussi, des questions de science à nous poser, vous pouvez le faire par téléphone. De la région de Montréal, c'est le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays sans frais, c'est le 1-800-752-9050. Puis, bien sûr, il y a toujours le courrier électronique lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière avec Hervé Fischer cette semaine. Bonjour Hervé.
Bonjour Yannick.
Pour nous parler de nouvelles technologies qui ont donné naissance à de nouveaux médias, est-ce que ces nouveaux médias dont on va parler dans quelques secondes, est-ce que ça change vraiment la donne à la nature et à la pratique de l'information? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui.
Oui, et je dois dire que ce qui m'a fait réfléchir, c'est la semaine qu'on a chaque année sur la liberté d'expression, qui est un événement majeur, parce que il y a toujours tellement de journalistes qui sont assassinés, emprisonnés, tellement de répression, que je pense que le problème est d'une grande actualité.
Oui.
Alors, ce que je crois, c'est qu'il faudrait d'abord opposer les anciens et les nouveaux médias.
Oui, les médias conventionnels, évidemment, oui.
Les médias conventionnels, nous sommes actuellement avec la radio.
Oui.
Naturellement, la télévision, les journaux papier, les magazines, le cinéma, bien entendu. Mais les nouveaux médias, c'est par exemple ce que fait Radio-Canada avec le site web. Ce sont des journaux en ligne et puis ce sont des sites web, etc. Alors donc, ce sont deux groupes complètement différents et il y a comme une sorte de basculement à l'heure actuelle de l'un à l'autre. Mmh. Et la question, c'est de savoir, au fond, lequel de ces deux blocs sert le mieux la liberté d'expression et la liberté d'information.
Oui. Dans les médias traditionnels, on peut dire qu'il y a une sorte de, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de contrôle de l'information. On sait ce qu'on veut faire, comment on le fait, pour qui on le fait, et parfois c'est au service de certains intérêts.
Oui, Yannick, vous ne me le faites pas dire. C'est que ce sont des structures lourdes, commerciales, avec des propriétaires qui sont des États ou des gros financiers. Il y a donc des limites. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il y a des qualités aussi, qui est par exemple une politique éditoriale. Mmh. C'est évident qu'il y a un contrôle aussi de la qualité de l'information et d'éviter des propos haineux, des diffamateurs, etc.
Il y a aussi un professionnalisme de l'information dans ces grandes institutions-là, oui. Mmh.
Donc, il ne faut certainement pas cracher dans la soupe. Ils sont extrêmement importants et bien entendu, il faut espérer qu'ils vont continuer, bien qu'on dise actuellement que c'est une industrie qui est de plus en plus sinistrée.
Qui a des problèmes, effectivement, bon, majeurs.
En tout cas, souhaitons qu'elle les surmonte, mais aussi, regardons les vertus des nouveaux médias.
Alors, les nouveaux médias, on va peut-être un peu les
représenter. Oui, les nouveaux médias, oui. Bon, il y en a qui sont, comme j'ai des succursales des médias traditionnels, comme le site web de Radio-Canada. Il y en a qui sont des journaux en ligne, Cyberpresse, Le Devoir, qui ont un site complémentaire avec l'édition papier.
On pourrait dire que ce sont les habits neufs des anciens médias, d'accord?
Oui,
mais
c'est
l'ouverture. Mais on veut parler des vraiment nouveaux médias.
Mais les nouveaux, il y en a beaucoup qui sont nés comme des rebelles. Par exemple, nous avons ici au Québec rue Frontenac, qui est lié à la suite d'un lockout de journalistes. Nous avons en France Rue 89, qui est un journal en ligne qui a été créé par Pierre Azic, qui est l'ancien rédacteur en chef adjoint du journal Libé. Nous avons Mediapart en France, qui a été créé par l'ancien directeur du journal Le Monde, en désaccord avec son patron. Donc ce sont des médias contestataires qui pensent qu'il faut faire l'information autrement. Mais il y a aussi tout ce qui est encore plus important à mon sens, tout ce que j'appellerais par opposition aux mass-médias dont on parlait, ce qu'on peut appeler appelés les self-media.
Les self-media.
Self-media,
ouais.
Les médias faits par soi-même, les médias spontanéistes, sorte de spontanéisme libertaire, qui sont des initiatives individuelles extrêmement diversifiées parce que les médias numériques permettent maintenant à tout un chacun, non seulement de lire, de consommer de l'information, mais d'en produire et d'en mettre en ligne.
Alors là, on a tous les blogs, les sites web,
c'est énorme. C'est quasiment des milliards de pages qu'on a maintenant. On a toutes sortes de magazines en ligne faits par une seule personne. On a naturellement tout ce qui est lié à YouTube, à MySpace, tous les médias sociaux.
Twitter, etc.
Oui. Les gens qui mettent de l'information sur... Et c'est extrêmement efficace à cause de la contamination virale, comme on dit, c'est-à-dire cette sorte de circulation très rapide de l'information, de blog en blog.
Multiplication.
C'est ça, qui est d'une... On dirait que ce sont des médias très, très minces, très, 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 très faibles, mais il faut en avoir des tout petits budgets, mais ils ont un pouvoir de diffusion extrêmement rapide, incroyable dans certains cas.
Oui, et à un point tel, d'ailleurs, que l'expression réseau social, qui normalement, ça désignerait le réseau qu'on a entre amis, par exemple, devient vraiment l'expression qui désigne ces médias sociaux-là. Hein.
Oui, c'est plus une soirée de bridge.
Oui.
Alors, évidemment, là, on a toute une nouvelle dynamique et on a une ubiquité. On a une puissance de diffusion et même souvent, on a des médias traditionnels qui reprennent des informations qui sont d'abord passées dans les nouveaux médias, qui sont d'abord passées sur YouTube ou sur un blog.
Et la question qu'on se pose au début, est-ce que ces nouveaux médias-là améliore la qualité, la liberté de l'information.
Mais oui, c'est ce que j'ose affirmer. Parce qu'effectivement, nous n'avons plus de politique éditoriale. On a éventuellement un peu n'importe quoi. Il n'y a plus le même professionnalisme. Il y a beaucoup d'erreurs. Bon. Mais il y a même toutes sortes de choses qu'on ne voudrait pas voir diffusées. Des propos haineux, diffamatoires, etc. Mais il y a une sorte d'activisme qui passe par tous les ordinateurs. Il y a quand même 1,5 milliard d'ordinateurs branchés à Internet sur le planète actuellement. C'est donc un réseau extraordinairement large. Et là, on a cette sorte de ruissellement d'informations, d'abondance d'informations, d'activisme d'informations, où chacun veut, au fond, devenir journaliste de sa planète. Ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant.
Donc, une meilleure circulation d'idées, de projets.
Et même qui contourne tous les contrôles, soit étatiques ou autres, parce que actuellement on peut avoir des gens qui contournent les blocages, les filtrages mis par les gouvernements pour diffuser de l'information clandestine. Ce sont des médias qui peuvent devenir carrément clandestin. Et ça permet une beaucoup plus grande liberté de l'information, peut-être une qualité moins régulière, mais il n'est plus possible aujourd'hui sur notre planète que des informations sur des choses scandaleuses ne circulent pas.
Donc en conclusion, Hervé Fischer, ce qu'on a appelé le cinquième pouvoir, le pouvoir des médias de masse, le cinquième pouvoir est en train d'échapper aux médias de masse et est en train d'être diffus dans la population.
Oui, je pense que oui, sauf qu'évidemment, il y a des effets pervers et il faut quand même les rappeler pour terminer parce que on voit bien que malgré tous les contrôles que les gouvernements, etc., essayent de faire, on voit bien que souvent c'est des bras de fer, hein, comme voit Google en Chine, mais il y a tellement d'informations, enfin de rumeurs, de diffamations, de criminalité, d'appel à la pédophilie, à la violence. Il y a environ 400 sites repérés qui sont des sites nazis ou fascistes, etc.
Oh, c'est incroyable.
Donc, alors ça, c'est épouvantable.
Donc, encore une fois, Hervé, comme la langue qui peut être la meilleure et la pire des choses, les nouveaux médias peuvent être la meilleure et la pire des choses. Vous diriez ça tel un Ésope moderne?
Je ne dirais pas ça, je dis c'est l'homme qui peut être le meilleur ou le pire. Espérons que les médias vont l'aider à devenir meilleur.
Hervé Fischer, je vous remercie beaucoup.
Merci Yannick.
Ce soir, à la télévision de Radio-Canada, 18h37, découverte, la série Terre, la grande aventure de la vie se poursuit. On en est au 6e épisode, ça porte sur les insectes. On compte, savez-vous, 200 millions d'insectes pour chaque être humain sur Terre. C'est vraiment la classe d'animaux qui a le mieux réussi. Mais en attendant découverte à la télé, vous restez avec nous à la radio. Après les nouvelles, c'est la deuxième heure des années-lumière. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours l'équipe pour vous présenter cette deuxième partie du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, la deuxième heure, elle va commencer avec un retour sur l'affaire du volcan islandais. C'est Hugues de Roussin qui va signer ce reportage. Nous vous présenterons ensuite une grande rencontre des années-lumière. Chantal Srivastava rencontre le pionnier de l'agriculture biologique, Pierre Rabhi. Et pour terminer, Sophie-André Blondin va recevoir l'auteur de la semaine. Il s'appelle Jean-Pierre Verdet. Il a publié un livre qui s'appelle « Aux origines du monde » aux éditions du Seuil. Alors, qui n'a pas vu les images de la colonne de cendres volcaniques qui s'échappe depuis le 14 avril dernier du volcan Eyjafjall en Islande? Cette éruption a totalement paralysé pendant plus d'une semaine une grande partie du trafic aérien en Europe. Elle a fait perdre près de 2 milliards aux compagnies aériennes, autant sans doute à l'industrie touristique. Et la décision de fermer le ciel d'une partie de l'Europe a fortement été critiquée. D'ailleurs, plus d'un croit qu'elle a été exagérée. Pourtant, cette éruption qui s'est déroulée en deux temps, elle n'avait rien de très spectaculaire au départ, hein, Hugues?
Oui, Yannick, le premier épisode de cette éruption a débuté le 21 mars dernier et a duré trois semaines. Et à ce moment-là, il n'y avait que de la lave qui s'écoulait par deux fissures sur les flancs du volcan et cela a duré jusqu'au 12 avril. Dès le lendemain, le 13, pendant la nuit, c'était reparti de plus belle. Mais cette fois, ce n'était pas des coulées de lave, mais une éruption explosive accompagnée d'une épaisse colonne de cendres volcaniques qui montait vers le ciel. 300 mètres cubes de lave sortaient du cratère du volcan à la seconde et la chaleur faisait fondre le glacier qui recouvre le volcan, provoquant, par le fait même, des inondations. Pour nous expliquer cette éruption en deux temps, j'ai joint John Stix, volcanologue et professeur à l'Université McGill.
L'éruption a commencé avec une série de coulées de lave et d'une région sur le volcan qui manquait de la glace. Par la suite, il y avait un changement dans la localisation des fissures et maintenant les fissures sont en bas du glacier qui recouvre le volcan. Et donc, il y a une fonte du glacier faite par le volcan créée par cette éruption et par la chaleur de l'éruption. Et nous voyons un mélange entre l'eau et la chaleur et la présence du magma. Et quand vous avez cette interaction entre le magma et l'eau, le résultat est une éruption souvent explosive. Donc, nous avons vu avec le temps un changement dans le comportement du volcan d'une activité relativement tranquille à une activité explosive. Et avec cette activité explosive, le magma s'est fragmenté dans les petits morceaux qui créent les cendres volcaniques qui causent tous les problèmes pour les avions.
Dans la première partie de l'éruption, dans les premières semaines, il y avait juste des coulées de lave. Il y avait ce qu'on appelle quelques fontaines, mais il n'y avait pas de fumée qui montait vers le ciel. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, quand la lave sortait par les fissures sur les flancs du volcan, il n'y avait pas de glace à cet endroit-là?
Exactement. Les premières fissures qui se sont ouvertes étaient dans une région sans glace sur l'édifice. Et puis, il y avait un déplacement de ces fissures où il y a des nouvelles fissures qui sont ouvertes vers l'ouest, quelques kilomètres vers l'ouest. Et maintenant, ces nouvelles fissures sont directement en dessous du glacier.
Cette fumée volcanique, de cendres volcaniques qui sort du volcan, elle est composée de quoi?
Si on regarde ces petits morceaux de cendres volcaniques au microscope, on voit qu'ils sont des échardes de verre. C'est vraiment le magma figé dans l'eau. C'est exactement comme vos fenêtres qu'on voit, sauf que la composition chimique est un peu différente, mais c'est du verre naturel.
Et en tout petits morceaux?
en tout petits morceaux. Et si ces morceaux sont incorporés dans un moteur d'un avion, il y a la possibilité des blocages dans les tubes des moteurs. Et aussi, le verre de ces cendres peuvent recouvrir les surfaces de la moteur.
Pour revenir à la composition des cendres, est-ce que c'est une composition standard, traditionnelle, qu'on peut voir dans d'autres volcans où il y a eu un contact de l'eau avec de la lave? Est-ce que c'est standard comme composition?
La composition est un peu non standard, dans le sens que la quantité de silice dans le verre se compose de plusieurs éléments, la silice, le calcium, le magnésium, etc. Et ce verre a un niveau de silice à peu près 58%, relativement élevé pour cette zone d'activité volcanique. Avec cette quantité de silice assez appréciable, ça aide le magma de fragmenter de façon explosive. Donc, c'est pas juste l'interaction magma-eau, c'est aussi la composition chimique du magma, du verre, qui crée un magma qui est relativement visqueux et susceptible à fragmenter.
C'était John Stix, donc, de l'Université McGill à Montréal. On sait, ce nuage de cendres volcaniques a été poussé donc par les vents vers l'Europe. Et en raison du danger que pouvaient présenter les cendres volcaniques, Hugues, eh bien, les autorités de nombreux pays européens ont décidé de clouer les avions au sol.
Oui, Yannick, les cendres volcaniques peuvent endommager les moteurs d'avions. On a recensé 90 cas en 15 ans, et même dans le cas où le taux de concentration est faible. Et toute la question est de savoir à partir de quel taux cela devient dangereux. Actuellement, il n'y a pas de règlement qui détermine ce taux. Les règles qui sont appliquées sont celles de l'OACI, et c'est tout simplement tolérance zéro. Les avions ne doivent pas s'approcher à moins de 100 000 des nuages de cendres volcaniques. Mais le problème va bien plus loin encore, comme l'explique René Servranx, météorologue et responsable du Centre d'avis des cendres volcaniques à Météo-Canada.
Le problème, c'est que les satellites qu'on utilise ne sont pas conçus pour détecter la cendre volcanique. Les satellites météorologiques, par exemple, ont des instruments qui sondent l'atmosphère à des longueurs d'onde qui correspondent à des phénomènes météorologiques, la glace, l'eau, etc. Or, la cendre volcanique, c'est de la roche pulvérisée, et donc ça a des caractéristiques qui sont tout à fait différentes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser, par exemple, des méthodes par déduction ou des méthodes proxy, c'est-à-dire qu'on peut essayer de combiner certains canaux sur les satellites météorologiques pour essayer de détecter la cendre, mais il y a quand même des limites assez importantes à la capacité de faire ça. Là où on a de l'espoir, c'est qu'il y a plusieurs nouveaux satellites environnementaux, par exemple les satellites Terra et Aqua de la NASA, satellites Calypso, qui sondent l'atmosphère à des longueurs d'onde, justement, qui sont appropriées pour la détection de la cendre volcanique. On est capable d'obtenir, par exemple, à l'occasion, des distributions de hauteur, avoir une idée à quelle hauteur est montée la cendre, et c'est sur ça qu'il faut compter. Mais à court terme, de façon générale, là, on est encore assez limité là, dans la capacité de détection.
Alors, expliquez-moi, si le taux de concentration est en plus très faible et qu'on ne voit rien à l'œil nu, comment on fait pour savoir que ça s'en vient si les satellites, eux, n'arrivent pas à le détecter comme il faut?
C'est là où vient l'importance de la modélisation. Et en effet, il est possible que le seuil de détection des satellites ne soit pas atteint, de sorte qu'on ne puisse pas l'avoir. Le problème, c'est ça, c'est que si c'est très faible, il faut attendre un certain temps pour voir si on va être capable peut-être de détecter avec d'autres instruments, d'autres satellites qui sont plus performants. Et c'est à la longue, après un certain temps, quand on n'aura rien détecté, qu'on va dire « Bon, maintenant, on a confiance qu'il n'y a rien dans ce nuage-là. » Et c'est là qu'on a annulé les avertissements.
En Europe, plusieurs gouvernements ont fait faire des tests via leurs différentes institutions. Ils ont envoyé des avions autour, près de la colonne de fumée, avec toutes sortes d'appareils de détection. Est-ce qu'il y a des appareils dans ces avions qui sont capables de détecter la concentration des cendres volcaniques?
Les avions de recherche dont vous parlez, ça, ce sont des avions qui sont pleinement instrumentés, donc sont capables de détecter même des panaches de cendres qui sont très peu concentrés. Donc, ils volent en périphérie des nuages volcaniques qui sont en mesure de détecter. Mais de façon générale, l'aviation au complet évite essentiellement de voler dans les nuages de cendres.
Ça dit, Hugues, même si on arrivait à établir les taux de concentration là, bien précis des cendres dans un nuage volcanique, est-ce qu'on pourrait se servir de cette information-là pour prendre la décision d'empêcher les avions de voler, par exemple?
C'est là tout le problème, Yannick, car savoir quel est le taux de concentration, c'est une chose, mais déterminer à partir de quel taux cela devient dangereux, c'est une autre chose. Et dans le cas qui nous préoccupe, les autorités ont préféré jouer la carte de la prudence, ont donc appliqué le principe de précaution, mais certains, dont plusieurs compagnies aériennes, pensent que la décision de clouer les avions au sol a duré trop longtemps, bref, qu'on a été trop craintif pour rien. On écoute à nouveau René Servranx.
C'est tout là où se trouve l'enjeu. Je pense que la décision qui a été prise initialement de fermer l'espace aérien était très bonne, parce que on sait que si les avions passent dans des couches de nuages de cendres volcaniques qui sont assez concentrées, ils vont avoir des dommages et il y a du danger. On a vu des cas extrêmes là où il y a eu des avions qui ont failli s'écraser même à cause de ça.
Oui, quatre moteurs se sont éteints en même temps. Oui.
Voilà, il y a au moins deux cas. On en connaît un en 1982, British Airways en Indonésie. Et il y en a eu en Alaska en 1989. Et donc, le problème, c'est de décider à partir de quand est-ce qu'on est assez certain qu'il n'y a plus de cendres ou que les concentrations sont tellement faibles qu'il n'y aura pas de problème du tout. Et c'est là où ça s'est joué, là, les difficultés qu'on a vécues en Europe. Au début, les concentrations étaient assez fortes et c'était clair. À mesure que le panache a été transporté et est devenu de plus en plus diffus, ben, quel est le déclencheur qui dit, bon, ben, maintenant, c'est sécuritaire? Et c'est pour ça que ça a pris tant de temps et finalement, ils l'ont fait. Mais c'est là où se trouve toute la difficulté.
Entre le 17 et le 20 avril en Angleterre, il y a des avions de recherche qui ont fait plusieurs tests. Ils ont évalué qu'il n'y avait jamais plus que 400 microgrammes de cendres volcaniques par mètre cube. Et là-bas, les scientifiques ont établi une norme à 2000 microgrammes par mètre cube comme étant la norme dangereuse.
Je pense qu'il faut être très prudent avant de tirer des conclusions sur quelle est la valeur seuil qui va vous causer un danger. Et je peux vous donner une raison qui est en fait très, très facile à comprendre. C'est qu'ils ont donné une valeur seuil qui était, par exemple, une concentration. Mais une concentration, c'est une valeur à un instant donné sur un certain volume. Si vous volez dans ce nuage-là pendant 15 minutes ou si vous volez dans ce nuage-là pendant une heure, même si la concentration est la même, vous allez avoir un effet qui va être intégré dans le temps et qui peut vous faire en sorte que dans un cas, vous aurez des problèmes et dans l'autre cas, vous n'en aurez pas. Donc, c'est pas seulement une question de concentration, c'est pendant combien de temps est-ce que l'avion va voler dans ce nuage-là aussi. Et ça, c'est des choses qu'il faut évaluer, qu'il faut considérer. Il est certain que pour nous, les météorologues, c'est très utile d'avoir des valeurs quantitatives, d'avoir des chiffres, parce qu'à ce moment-là, on peut commencer à faire des modélisations. Donc, c'est très utile d'avoir des mesures quantitatives, d'avoir des informations sur les valeurs seuils qui sont un danger pour les moteurs ou les avions. Ça fait longtemps, en fait, qu'on demande d'avoir des chiffres sur les quantités qui sont dangereuses.
Si on prend des mesures à une heure donnée, à un endroit précis dans le nuage ou autour du nuage, une heure après, la situation peut avoir complètement changé à cause des vents, par exemple?
Tout à fait. Ce que vous mesurez à un endroit parce que le vent a changé de direction au cours de la dernière heure, ben, cette cendre-là va se retrouver ailleurs. L'autre variable qui est très, très importante et qui nous cause beaucoup de difficultés, ce sont les paramètres d'éruption du volcan lui-même. Lorsqu'un volcan fait éruption, c'est pas une source continue qui fait monter de la cendre toujours à la même hauteur. Le volcan a des explosions. Parfois, la cendre va monter très haut. Parfois, elle va monter à des hauteurs relativement faibles de quelques kilomètres. Donc, la façon dont la cendre est libérée dans l'atmosphère, ça se fait de façon différente en fonction du temps. Et ça, on n'a pas de bonne mesure de cette distribution-là temporelle de la cendre, à quelle hauteur elle est montée, à quelle heure, puis pendant combien de temps l'éruption a duré, etc. C'est un grand problème parce que ce qu'on essaie de prévoir pour le seuil de danger, en espérant qu'éventuellement on ait des valeurs quantitatives, ce sont des concentrations. Donc, pour avoir une concentration, il faut savoir quelle est la masse qui sort du volcan. Donc, on veut tout de suite comprendre la difficulté que ça présente.
C'était le météorologue René Servranx, qui est responsable du Centre d'avis des cendres volcaniques à Environnement Canada. Alors, la colonne de fumée, on l'a su, a perturbé le trafic aérien sur l'Atlantique, sur l'Europe. Mais est-ce qu'elle pourrait perturber aussi, Hugues, le climat?
Non, pas vraiment, Yannick. L'éruption de Leyafiol est petite en termes volcanologiques. Un ordre de grandeur, l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 91 était 100 fois plus importante et avait fait chuter temporairement la température dans la région seulement d'un petit demi-degré. Quant au gaz carbonique qui a été projeté par le volcan islandais, c'est 1000 fois moins que ce que produit l'être humain et en plus, c'est moins que la quantité de CO2 qu'auraient produit les avions cloués au sol s'ils avaient volé. Donc, on y a gagné au change.
Bien sûr. Alors, le trafic aérien a repris maintenant, hein, Hugues. L'éruption du volcan, bon, ça tire à sa fin ou à peu près, là. Est-ce qu'on est, comme on dit, sorti du bois?
La situation s'est améliorée, c'est indéniable, Yannick, mais le volcan lui-même pourrait se réveiller à nouveau. Lors de la dernière éruption en 1823, l'activité volcanique avait duré 14 mois. Et en plus, pas très loin de là, il y a un deuxième volcan, le Katla, qui pourrait lui aussi se réveiller. Amandine Auriac est étudiante au doctorat en géophysique à l'Université d'Islande.
Ce deuxième volcan, c'est le Katla. Il est effectivement entré en éruption à chaque fois que Leia Fiat-Layekut est entré en éruption, soit avant, soit enfin, juste avant ou juste après. On va dire qu'il y a une forte probabilité qu'il rentre en éruption encore à la fin de cette éruption-ci. Et s'il rentre en éruption, il peut très bien faire une petite éruption, comme une grosse éruption. Et ça, encore une fois, on ne peut pas prédire si longtemps à l'avance. Actuellement, il n'y a aucun signe de réveil du Katla. Donc pour l'instant, on le surveille, mais il n'y a rien. Sur les éruptions précédentes, qui étaient liées à l'activité de Leia Fiat, c'était principalement des éruptions de petite, voire moyenne taille. Il a fait des éruptions beaucoup plus importantes, mais tout seul.
Alors pourquoi les spécialistes disent qu'ils craignent plus l'éruption du Katla, qui pourrait potentiellement être beaucoup plus importante et dangereuse?
Parce que justement, c'est un volcan qui a beaucoup plus de potentiel. Donc on craint plus, quand on sait le potentiel du volcan, on va dire qu'on craint toujours le pire. Et d'un côté, c'est mieux de prévoir toujours le pire scénario, peut-être, que le moindre. Comme ça, on est mieux préparé, je vais dire.
Est-ce que ça veut dire que les deux volcans sont reliés d'une manière quelconque dans le sous-sol?
C'est une théorie. C'est très difficile de dire exactement quel est le lien entre ces deux volcans, mais il semble qu'il y ait un lien, effectivement, oui.
Et le fait que le glacier qui est sur le Katla est plus gros, plus épais, est-ce que ça change l'éruption elle-même au moment où la lave rentre en contact avec la glace?
Ça pourrait jouer un rôle, en effet. Ça va dépendre où le magma va sortir. Et de la profondeur de glace juste au-dessus du point de l'éruption, ça joue toujours un rôle, mais ça peut être en mieux ou en pire. C'est pas défini.
Donc pour le moment, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre des mesures et regarder.
C'est ça. Pour l'instant, on surveille. Et puis si jamais on commence à voir quelque chose, là, on essaiera de prévoir un peu quel peut être le type d'éruption. Mais pour l'instant, aucune donnée, donc on peut pas dire.
C'était Amandine Auriac, qui est étudiante au doctorat en géophysique à l'Université d'Islande.
Une note positive peut-être, Yannick, les cendres qui sont tombées sur la région du volcan et ailleurs en Europe, ben, c'est pas très bon pour les récoltes cette année, mais à partir de l'an prochain, ces cendres deviendront du bon engrais qui vont enrichir les champs, les agriculteurs seront contents.
Merci beaucoup, Hugues.
Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Nous vous proposons maintenant une grande rencontre des Années-Lumière avec Pierre Rabhi, un personnage plus grand que nature. L'écologiste Nicolas Hulot a dit de lui « il faut écouter cet homme-là ». Agriculteur, écrivain, penseur, Pierre Rabhi a même fait campagne pour être candidat à l'élection présidentielle en France en 2002. Originaire d'Algérie, il s'est installé en Ardèche, ça c'est dans le sud de la France, au début des années 60 pour cultiver la terre dans des conditions parfois difficiles. Au fil des ans, il a mis en application les grands principes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Et il a même contribué à l'élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Pierre Rabhi est de passage ces jours-ci au Québec pour une série de conférences. Chantal de Srivastava en a profité pour l'inviter en studio. Il explique tout d'abord ce qu'est l'agroécologie, avec en fond sonore la musique d'un de ses amis de cœur, aujourd'hui décédé, le violoniste virtuose Yehudi Menouin, qui a d'ailleurs à maintes reprises endossé sa cause.
Moi, j'ai commencé, si vous voulez, puisque j'ai fait un retour à la terre dans les années 61, en réaction à l'agriculture dite chimique, etc. Il fallait vraiment avoir la foi, c'est-à-dire avoir la certitude que c'était que l'agriculture biologique était la bonne méthode, la méthode juste. Et ensuite, alors, je suis allé au Sahel, soumis à la rigueur de la sécheresse des années 70, avec la destruction de la biodiversité végétale, animale, les troupeaux, les gens sont morts de faim, etc. Ça a été un cataclysme énorme. Et c'était bon dire, est-ce que cette expérience sur notre propre ferme, d'une agriculture qui n'a pas recours du tout à des substances chimiques, était applicable sur le lieu. Et à ce moment-là, j'ai découvert que on ne pouvait pas se contenter de faire que de l'agriculture biologique, puisque l'environnement lui-même était atteint. Donc, il fallait introduire l'agriculture écologique dans le sens où il y a, dans l'agroécologie, le terme d'agroécologie, il y a à la fois l'aspect, bien sûr, comme le devine, agriculture, mais il y a aussi l'écologie. Alors, ça a été une extension de l'agriculture biologique vers des séquences ou des activités qui concernent la nécessité de reboiser, la nécessité de lutter contre l'érosion, la nécessité de gérer l'eau pluviale, la protection des sols, la nécessité de revoir complètement le mode pastoral, le mode d'élevage, etc. Et ça intègre tout cela, la nécessité aussi de préserver les semences, parce que c'est très important que les semences transmissibles de génération en génération soient préservées. Et c'est une approche qui, au-delà de l'activité agronomique, comporte aussi une philosophie.
Pierre Rabhi, au cours de votre cheminement, vous en êtes venu très rapidement d'ailleurs à faire, je dirais, ce qu'on pourrait peut-être appeler le procès de l'agriculture industrielle. Vous êtes d'accord avec le terme de procès? Vous êtes très critique. Hein,
oui, très critique. Alors, je n'ai jamais, évidemment, je m'en suis jamais pris aux agriculteurs eux-mêmes. Moi, je considère qu'il y a là une responsabilité partagée. Les consommateurs voulaient des produits pas chers, les agriculteurs, on leur a, en tout cas en Europe, il y a eu la fameuse politique agricole commune qui les a incités à produire pour compenser les déficits suite à la guerre, etc. Donc ils ont été mis dans un processus en quelque sorte de produiser parce qu'il faut compenser les... Ensuite, l'agriculture est passée, comment faire de l'agriculture lucrative? Et on est parti dans un délire incroyable du productivisme à tout prix, à tout craint, etc., etc. Cette agriculture, en quelques décennies, a ruiné le patrimoine. Terre, eau polluée, espèces disparues, paysans disparus, etc., etc.
Et pourtant, ce qu'on nous disait, ce qu'on nous dit encore, c'est qu'avec ce type d'agriculture, on va en venir à nourrir le monde, nourrir la planète. Et même qu'au récent sommet de la FAO sur l'agriculture et l'insécurité alimentaire, on vise encore, comme voie royale, augmenter les rendements. Comment vous pensez qu'on va pouvoir se sortir de cette spirale du toujours plus ?
Non, mais c'est une imposture totale parce que, en fait... L'agriculture dite chimique, elle a eu quand même quelques décennies où elle pouvait s'exercer comme elle voulait. Et le constat aujourd'hui, c'est que non seulement elle n'a pas éradiqué la faim, mais elle l'a aggravée. Parce qu'on est rentré dans des systèmes... Quand vous avez un mode agricole qui repose sur le pétrole, il faut à peu près deux tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais, que le pétrole est indexé sur le dollar, etc. Et que vous poussez les paysans à produire pour exporter... pour l'exportation, avec des investissements d'intrants au départ sans du tout préjuger du résultat, où vous investissez mais vous n'êtes pas sûr du tout. Déjà, l'investissement que vous faites, vous avez dépensé, hein, déjà. Et ensuite, le résultat, vous ne le connaissez pas, puisqu'on est dans un monde aléatoire,
la nature. Ouais.
Et puis ensuite, la marchandise regroupée, eh bien, elle va, celle du petit paysan avec sa famille, etc., est traitée de la même façon que celle de l'agriculteur américain avec son tracteur et des centaines d'hectares. Donc, la loi du marché ensuite qui fait que la concurrence est inégale, donc le petit paysan est détruit. Et que par ailleurs, vous avez au nord des agriculteurs subventionnés. Logiquement, vous voyez immédiatement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications pour se rendre compte qu'on met en place un système totalement inégal, totalement inéquitable. Et de ce fait, on a aggravé les famines. L'agriculture moderne n'a pas solutionné. Et je pense que petit à petit, ce que ne perçoivent pas les Occidentaux, qu'on dit du bon côté de la barrière, ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est que même l'Occident est menacé de pénurie. Menacé de pénurie par la logique même qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, quand on rassemble les divers paramètres concernant la problématique alimentaire mondiale, eh bien, ils sont tous, il y a une conjonction négative qui est une menace non seulement sur les pays du Sud qui n'y arrivent pas, mais aussi sur les pays du Nord. Parce que ce mécanisme-là, on a fait les bilans écologiques, mais on va bientôt faire les bilans réellement sur ce que signifie aujourd'hui la problématique alimentaire. Et aujourd'hui, les savants sérieux et crédibles disent que l'alimentation est véhicule des nuisances qui sont préjudiciables à la santé publique. Et c'est vrai qu'il y a une augmentation de pathologies énorme par rapport à la santé publique. Donc, on produit beaucoup, même très mal, et même nuisible. Et alors, bientôt, la nourriture qui est censée entretenir la vie va participer à la mort. Et je dis un peu de façon humoristique, bientôt, quand on se mettra à table, il faudra souhaiter, non pas bon appétit, mais bonne chance. Dans le sens où finalement, ces nuisances insidieuses sont en train de... Vous avez déjà l'alimentation, disons, qu'on pourrait dire tangible, hein, comme les aliments. Vous avez aussi l'eau, qui est un aliment. On oublie que l'eau est un aliment qui est pollué. Vous avez l'air qui est un aliment qui est pollué aussi. L'alimentation, c'est pas seulement la nourriture. La nourriture, c'est tout ce qui entretient la vie. L'air entretient la vie, l'eau entretient la vie, la nourriture terrestre entretient la vie, et c'est tout ça l'alimentation. C'est pas simplement que et tout est pollué. Alors on peut imaginer une évolution extrêmement négative de la santé publique.
Pierre Rabhi, on est ici à l'émission Les Années-Lumière, où on s'intéresse à la science, aux techniques, à l'ingénierie. Quel est le rôle de la science, des scientifiques, des différentes compagnies qui font de la recherche, des laboratoires, des universités?
Vous savez, je n'ai aucune déférence par rapport à la science. Par contre, j'ai une déférence, c'est-à-dire que je considère que la science est une activité humaine qui produit, comme toute activité humaine, le meilleur et le pire. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a du meilleur, mais il y a aussi du pire. Je crois que c'est scientifiquement qu'on a inventé des engins de destruction, des missiles, etc. Je veux dire, c'est quand même la science. Et on peut lui imputer énormément de choses négatives sur cette planète. Et il y a aussi, bon, toutes les évolutions positives dans certains domaines, comme la médecine, comme des domaines où on peut constater les bienfaits de la science qui aussi peut aider à améliorer la condition humaine, etc. Donc c'est un domaine très ambigu, si vous voulez. Quelqu'un qui va faire de la recherche pour savoir comment une balle peut traverser un corps humain, faire un gros trou pour que la personne meure vraiment, ben c'est aussi scientifiquement qu'on fait les choses. Donc j'ai pas de différence. Par contre, je pense qu'on aura la science qui sera à la mesure de la conscience. Il y a quelqu'un qui l'a dit bien avant moi, la formule, pas besoin de revenir sur cette formule. Mais effectivement, l'être humain, il est créatif. Alors, dans quelle posture spirituelle ou quelle posture de conscience il fait les choses? Alors, la science peut aider vraiment à l'amélioration de la condition humaine, réellement, mais à condition que l'objet de cette science, c'est pas d'abord la vanité des individus qui veulent trouver des trucs, avoir des prix Nobel, etc., etc. Ça, je trouve ça assez infantile. Mais par contre, dans l'idée de dire comment utiliser cette aptitude formidable de comprendre les phénomènes, etc., à des fins d'amélioration et de progrès réels destinés à changer la condition humaine et à l'alléger. Donc, vous voyez, c'est ambivalent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas juger que dans un sens ou dans l'autre. Comme de toute activité humaine, hein, le meilleur et le pire.
Pierre Rabhi, vous êtes agriculteur, mais vous êtes aussi écrivain et vous avez pris la plume au fil des années pour raconter votre parcours, pour éveiller les consciences, également pour publier un manifeste pour la Terre et pour l'humanisme qui est paru en 2008, qui est un appel à la conscience. Pouvez-vous nous dire un peu concrètement, les gens qui nous écoutent et qui se disent « Oui, je constate tout ce qu'il dit, mais je ne sais pas quoi faire. Je mange, on vit sous un climat qui est nordique, j'achète des produits, je ne peux pas tout cultiver, je ne peux pas tout acheter à proximité. » Quelle issue proposez-vous?
Pour nous, nous proposons un autre paradigme. Sortir du paradigme de la productivité, de l'argent roi, etc. Éduquer les enfants autrement, sur d'autres valeurs, etc. Et mettre l'humain et la nature au cœur de nos soucis et de nos préoccupations. Et tout le reste à leur service. L'économie, ça doit être au service de la vie. Ça ne doit pas être celle qui détruit la vie. On distribue des prix Nobel à des tas de gens et qui parlent d'économie, mais ce n'est pas l'économie. N'appelons pas économie ce qui ravage la planète. C'est l'anti-économie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. C'est-à-dire, vous avez un pays qui va augmenter son PIB ou son PIB de temps, on va applaudir, bravo, bravo, mais sur les critères simplement financiers. Mais on occultera complètement qu'il a augmenté son produit national brut ou autre parce qu'il a détruit des milliers d'hectares de forêt. Ça n'est pas de l'économie. L'économie, c'est au contraire une noble discipline qui répartit les ressources, qui gère les ressources. La nature nous donne l'exemple d'un système qui n'a pas de poubelle. La nature n'a pas de poubelle, elle n'a jamais créé quelque chose qui soit du rebut. Et c'est une belle leçon d'économie que de dire comment gérer les biens et les ressources, les répartir et donc obtenir quelque chose. Alors, que peut faire l'être humain ? L'être humain, il faut qu'il prenne conscience de ça. Parce que nous sommes dans un système de consommation illimité. Le toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours plus, ça veut dire que si je suis dans cette insatiabilité qui ne me donne même pas la joie, parce que la joie, ça ne s'achète pas. On peut acheter tous les yachts, tout ce qu'on voudra, mais on n'achète pas la joie. On peut être parfaitement malheureux avec un tas de yachts. Ça ne relève pas de ça. Parce que tout ce fatras que nous avons accumulé autour de nous, ça coûte de l'aliénation humaine, ça coûte énormément de travail, ça coûte énormément. Alors du coup, nous sommes dans un système dans lequel on ne sait pas à quel moment on vit. Et l'autre fois, on m'avait demandé d'intervenir au niveau du MEDEF en France.
Le MEDEF qui est ?
C'est le mouvement des entreprises de France. Et j'ai commencé par dire, moi, ma grande question aujourd'hui, c'est à savoir, est-ce qu'il existe une vie avant la mort, puisque je ne sais pas s'il existe une vie après la mort. Mais par contre, je me pose des questions, qu'est-ce que c'est que vivre ? Est-ce que vivre, c'est naître, faire des études, travailler toute sa vie pour mériter d'avoir sa gamelle et puis de finir dans une maison de vieux avant de disparaître, quoi. Je veux dire, moi, je ne considère pas que la condition humaine est que nous sommes nés sur cette planète pour cela. Alors après, on est un peu insatisfait, dans une forme de tristesse profonde. Je rencontre beaucoup de gens qui disent, je regarde en arrière, j'ai beaucoup travaillé, mais finalement, voilà, j'ai réussi ma vie économique, mais j'ai échoué ma vie humaine. Chemin faisant, ma femme m'a quitté, j'ai pas vu grandir mes enfants, donc ils étaient insatisfaits, puisque je n'ai pas créé de lien avec eux, parce que durant ce temps-là, il fallait que j'aille gagner de l'argent à tout prix et beaucoup d'argent, en pensant que c'est avec cet argent que j'allais finalement compenser et combler les manques. Non, l'argent ne comble pas les manques. Il comble la matière, disons le besoin de matière, mais il ne comble pas le besoin d'intériorité et de satisfaction intérieure.
Donc Pierre Rabhi, en guise de conclusion, pour les gens qui nous écoutent, qui sont d'accord avec le discours, mais qui se demandent comment poser des gestes aujourd'hui, maintenant, la semaine prochaine, le mois prochain, qu'est-ce qu'on leur dit ?
Disons que c'est un long processus. On n'a pas une baguette magique pour faire. C'est que c'est pour ça que je propose la sobriété heureuse. Pourquoi ? Parce que je l'ai appliquée moi-même. C'est pas une théorie. C'est quelque chose auquel je crois, mais vraiment profondément, que quand on limite ses ambitions. On commence à limiter ses ambitions, de dire, tiens, pourquoi est-ce que je changerais telle chose puisque ça marche toujours ? Pourquoi est-ce que je voudrais encore plus autre chose, etc., etc., et que je mets une limite à cela, ça induit quelque chose qui met de la satisfaction. Parce que si vous êtes constamment à vous demander quoi, vous êtes dans l'insatisfaction. Et donc, je crois que ça tient beaucoup plus au-delà des gestes matériels, ça tient surtout à une perception intérieure profonde. Et quand j'ai cette perception que je peux me contenter de ce qui me revient normalement et ensuite je suis désaliéné par rapport au superflu. Le problème aujourd'hui, c'est pas le nécessaire, c'est que nous sommes dans une situation du superflu. Et chaque jour, chacun, moi le premier aussi, je participe à ce superflu puisque je suis moi-même dans une contradiction importante. J'ai une voiture, je roule beaucoup parce que je dois donner des conférences.
Traverser l'Atlantique.
Voilà, je traverse l'Atlantique, je prends l'avion, etc. Donc il ne s'agit pas de jouer je ne me propose pas comme étant exempt des contradictions que j'essaie de combattre. C'est simplement de se dire, mettons en route un processus qui va nous amener à mieux nous comprendre nous-mêmes. Notamment l'éducation des enfants, c'est quand même incroyable que l'enfant ne lui apprend pas à se connaître lui-même, à développer ses sens, à se comprendre. Et tout d'un coup, donc c'est tout un processus qui intégrerait beaucoup de choses, mais en tout cas qui aboutirait à générer une perception intérieure qui nous met bien en évidence que nous sommes piégés par la matière quand elle est excessive et qu'il faut qu'on se libère de cette matière en étant dans la sobriété. Et par ailleurs, j'étais à l'UNESCO, je donnais une conférence, il y avait énormément de monde, on était avec Nicolas Hulot, etc. À la fin, les gens nous demandent, bon, maintenant nous rentrons chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Ils s'attendaient à ce que je leur dise, changer de fermer le robinet, éteigner la lumière. Non, ce que je leur ai dit, c'est rentrer chez vous, réconciliez-vous avec vos compagnons, vos compagnes, vos enfants, votre belle-mère, votre... Et vous allez construire un monde différent. Le monde différent ne se construira pas simplement parce qu'on va économiser l'eau. Et je dis souvent, on peut manger bio, recycler son eau, chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Je veux dire que ce n'est pas croire que parce qu'on va mettre en route une multitude d'alternatives architecturales, écologiques, etc., etc., que la société va changer. Or, l'objet final, disons, de notre système et de notre aventure humaine, c'est d'aboutir à une société réconciliée avec elle-même et non pas une société dualiste où l'on met aujourd'hui, avec la mondialisation, on se fait la guerre, on se fait la guerre économique, qui enclenche la guerre militaire, qui enclenche, etc., etc. Ça, c'est une immaturité. Et ben, ça commence par soi. La société, c'est moi. Et moi, c'est la société. Et la seule chose sur laquelle je peux agir, c'est moi-même. J'agis sur moi-même, je rentre dans une forme de tempérance, de forme de modération. Et cette modération, eh bien, elle contribue au changement du monde.
Pierre Rabhi, je vous remercie infiniment d'avoir fait un détour dans notre studio pour venir partager votre expérience et vos réflexions. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci
au revoir.
Beaucoup.
Chantal de Srivastava s'entretenait avec Pierre Rabhi qui sera demain à Québec à l'Université Laval et au Musée de la Civilisation et jeudi au Jardin Botanique de Montréal. Pierre Rabhi vient de publier chez Actes Sud « Vers la sobriété heureuse ». Et là-dessus, on passe à l'auteur de la semaine, Jean-Pierre Verdet, qui explique que l'humanité s'est toujours posé la question suivante « Comment le monde est-il né ?» et qui raconte dans son livre, bien sûr, les réponses qu'elle y a donné. Son livre s'appelle « Aux origines du monde, une histoire de la cosmogonie », c'est aux éditions du Seuil. Sophie-André Blondin a invité cet astronome et historien de l'astronomie ancienne et classique en studio. Et avant de voyager dans l'histoire, ils ont exploré la langue pour cerner d'abord le mot « cosmogonie ».
La cosmogonie par rapport à la cosmologie c'est la science du cosmos, donc c'est la science des astres. Alors que la cosmogonie, c'est la science de la naissance du, théoriquement, de la naissance du monde, dans la mesure où on est sûr que le monde a eu une naissance. En strictement, la cosmogonie, c'est la science qui étudie, sinon la naissance, en tout cas, les origines et les débuts du monde.
Et est-ce qu'on sait quand l'humain a commencé à se poser des questions sur l'origine du monde qui l'entoure?
Les origines de l'interrogation sur l'univers se perdent dans la nuit des temps. Dès les premières manifestations écrites de la pensée humaine, on a des préoccupations sur les origines, que ce soit l'origine du monde, l'origine de la vie, l'origine de l'homme. C'est une interrogation que les hommes se posent non seulement avant d'avoir les moyens d'y répondre, si toutefois on y répondra un jour totalement, mais même avant d'avoir les moyens de poser correctement les questions. Donc c'est une interrogation quasiment existentielle ou métaphysique, comme vous voudrez, qui remonte vraiment au début de la pensée. Alors cela dit, au début, évidemment, par définition, vu son ancienneté, ça prend la forme du mythe. Ça ressortit non pas à la pensée rationnelle, mais à la pensée mythologique.
Parce qu'on n'avait pas encore les outils, évidemment, pour répondre à ces questions, mais aux yeux du scientifique que vous êtes, Jean-Pierre Verdet, est-ce que ces mythes ont une valeur?
Ah ben, ces mythes, oui. Ils ont une valeur déjà. Ils ont une valeur comme manifestation de la pensée humaine. Ils n'ont plus de valeur scientifique. D'abord, l'univers s'est tellement agrandi par rapport au cosmos ancien, qui leur paraissait grand, mais qui était une toute petite maison. Au départ, ce que les hommes prétendent être l'origine du monde, c'est l'origine qu'on appelle aujourd'hui d'une partie du système solaire. D'ailleurs, mon livre, comme il part de l'Antiquité, il se contente d'étudier les origines pratiquement du système solaire. C'est l'origine de notre petit coin d'univers. Ce qui ne pose pas le problème le plus compliqué, c'est de l'origine des origines. Tous les problèmes d'origine sont compliqués, hein, que ce soit l'origine de la vie, l'origine de l'homme, l'origine du système solaire, mais l'origine de l'univers considéré comme le tout dans lequel nous sommes immergés, ça pose un problème beaucoup plus délicat parce que, c'est ce qui amène d'ailleurs Emmanuel Kant à la philosophie critique, c'est qu'on a du mal à concevoir, ou en tout cas à imaginer, aussi bien un monde qui a un début, parce que s'il a un début, on se pose la question stupide d'ailleurs, mais on ne peut pas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Alors évidemment, un cosmogoniste vous dit, mais puisque c'est l'origine, avant il n'y avait rien. N'empêche qu'on se pose cette question. Et dire que le monde existe de toute éternité, c'est à peu près également aussi inimaginable.
On va rester très loin de l'Antiquité, ensuite on ira vers Kant, vous l'avez mentionné, vers Laplace, vers Descartes et autres héros de votre livre, Jean-Pierre Verdet, aux origines du monde. Mais restons quelques moments encore dans le monde du mythe, parce qu'il y a des constances, parce que partout dans le monde, l'homme s'est inventé des histoires pour expliquer l'origine du monde qui l'entoure, aussi petit soit-il. Et il y a des constances, par exemple, que le monde est né d'une rupture, d'un choc, d'un meurtre.
Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, cette idée de rupture, elle est liée à ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on pense à une origine, mais dès qu'on pense à une origine, on pense à ce qu'il y avait avant cette origine. Donc, finalement, les cosmogonies mythologiques ne partent pas vraiment de rien. Elles partent d'une espèce de chaos. Alors, ça dépend finalement des civilisations. On voit bien que les civilisations du Nil, par exemple, l'Égypte, ça part d'un marécage parce qu'ils ont le Nil, ils ont le delta, etc. Donc, en général, il y a une espèce de chaos, de boue, à la limite de marécage. Et puis, il y a une rupture et les choses commencent à se mettre en ordre.
Alors, d'autres peuples vivant dans d'autres contextes vont utiliser ce qu'il y a autour d'eux pour inventer cette histoire de
début du monde. Oui, bien sûr. On a dans le cerveau quand même que ce qu'on connaît quand même.
Et donc, plus l'homme avance, plus il en connaît, plus il en a dans le cerveau, plus il en a à voir. Le monde grandit de plus en plus. Ça se complique au niveau de la cosmogonie et des cosmogonistes.
Oui, bien sûr. Alors, tout change au XVIIe siècle. En particulier avec l'apparition de la lunette astronomique, qui permet de voir plus loin. Remarquez, les hommes ne se sont jamais bercés de l'illusion de croire qu'ils voyaient tout l'univers. Mais ils se berçaient, et ils se bercent toujours, d'une autre illusion, un peu moins dangereuse, mais peut-être quand même dangereuse, à savoir qu'on ne voit peut-être pas tout l'univers, mais l'échantillon que nous envoyons à un moment donné est suffisamment représentatif pour pouvoir penser à la structure du tout. Donc, même les anciens, qui avaient un univers très réduit, pressentaient qu'ils ne voyaient pas tout l'univers parce qu'ils voyaient des étoiles de plus en plus faibles. Ils avaient conscience qu'il devait y avoir des étoiles tellement faibles et tellement lointaines qu'elles existaient, mais qu'on ne les voyait pas. Alors, évidemment, avec l'apparition de la lunette, l'univers s'agrandit. Alors, aujourd'hui, n'en parlons pas, on voit des milliards de galaxies, enfin, en tout cas, des centaines de millions de galaxies qui contiennent chacune des milliards et des milliards d'étoiles. Et on voit ça à des distances absolument hallucinantes.
Et à chaque fois, ça se corse et ça se complique pour expliquer le début de tout ça.
Oui, la science, je ne pense pas que les physiciens ne seront jamais au chômage parce que quand on résout une question un peu délicate, on donne une réponse, mais cette réponse pose deux ou trois nouvelles questions. Donc, c'est, non seulement il n'y a pas de risque de chômage, mais c'est quasiment exponentiel. Plus on répond aux questions, plus ça en pose de nouvelles.
N'empêche que quand on lit votre livre, Jean-Pierre Verdet, on se rend compte qu'entre les Descartes, Buffon, Kant, Laplace et les plus récents, comme il y avait des constantes dans les mythes fondateurs, les mythes sur l'origine, il y a des constantes, il y a des Kant, des évolutionnistes, des catastrophistes. On peut vraiment voir évoluer, revenir des idées aussi.
Oui, c'est un peu cyclique. C'est-à-dire que, les origines du monde et l'origine de la cosmogonie se perdent dans la nuit des temps. Mais une cosmogonie à prétention rationnelle, elle commence quand même déjà avec Platon. Donc elle commence quand même au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que la physique de Platon est abandonnée par l'Occident chrétien. au bénéfice de la physique d'Aristote. Or, pour Aristote, le monde existe identique à lui-même de toute éternité. Donc, pour Aristote, il n'y a pas de pensée cosmogonique. Il n'y a pas de naissance du monde. Et comme la pensée aristotélicienne règne sur l'Occident chrétien pendant plus de 2000 ans, on ne parle plus de cosmogonie. Il faut attendre le XVIIe siècle, il faut attendre en particulier Descartes avec son traité du monde ou de la lumière, pour que la réflexion cosmogonique reprenne sous une forme, peut-être pas scientifique au sens moderne du temps d'aujourd'hui, mais en tout cas une pensée rationnelle. Donc ça commence avec Descartes, et puis ça prend vraiment un véritable aspect rationnel et même scientifique et positiviste, avec des gens comme Emmanuel Kant, quelques années avant Laplace. Les travaux de Kant et de Laplace se ressemblent beaucoup. C'est une théorie évolutionniste, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cosmogonie, mais il y a quand même, vous avez raison, il n'y a quand même que deux grandes options.
Ouais, soit les évolutionnistes ou les catastrophistes.
Et les catastrophistes. Alors les évolutionnistes, il y a eu un début du monde, et puis ça évolue selon les lois de la physique, il n'y a pas de catastrophe, tout ça est naturel, il n'y a pas d'intervention divine ou miraculeuse, tout ça se fait selon les lois de la nature. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit athée. Hein. Descartes, qui est pour partisan de ça, n'est pas du tout athée. Mais pour Descartes, Dieu fournit la matière première et une impulsion de départ. Dieu n'a même pas la responsabilité d'Arty, il n'y a même pas de service après-vente. Hein. Mais Descartes a été mis, on a découvert il y a quelques décennies, il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 20 ans, que l'œuvre de Descartes avait été mise globalement à l'index, en partie à cause de ce rôle extrêmement réduit qui est donné à Dieu par Descartes. C'est vrai que dans le monde de Descartes, il suffit d'une pichenette pour évacuer Dieu du monde.
Ensuite, Dieu regarde aller.
Voilà. Donc, Descartes a été mis à l'index, et on ne sait pas si c'est vrai, mais d'après le fils de William Herschel, d'après John Herschel, quand Laplace a présenté sa cosmogonie à Napoléon, puisque Laplace a eu une petite expérience politique, il a été ministre de l'Intérieur pendant quelques mois, il s'est rendu compte que c'était vraiment pas dans les attributions d'un astronome, et il a très vite renoncé. Et donc, la légende veut que Napoléon ait dit à Laplace « Je n'ai pas rencontré Dieu dans votre cosmogonie ». Et Laplace a simplement dit, une réponse à la Descartes, « Sire, je n'en ai pas eu besoin ». Alors, Laplace, lui, il est totalement évolutionniste. Alors, les catastrophistes, c'est l'école de Buffon. En général, c'est des gens qui sont plus soucieux d'être en accord avec la Genèse biblique. Parce que là, il y a vraiment, c'est une création ex nihilo. Il n'y a pas d'évolution. Dieu crée les choses telles qu'on les voit aujourd'hui, ce que plus personne ne croit, même un croyant totalement intégriste ne croit plus, sauf aux États-Unis, il y a quelques clubs de dégénérés mentaux, mais ça, il en faut. Mais autrement, tout le monde admet maintenant l'évolutionnisme. Mais donc, pour des gens comme Buffon, le système solaire naît d'une catastrophe. C'est-à-dire que c'est une comète qui passe près du Soleil et qui arrache un lambeau de matière au Soleil. Et c'est cette matière qui va donner le système solaire. Alors, après, il y a toute une école catastrophiste. Mais les catastrophes, c'est un peu comme les trains. Une catastrophe peut toujours en cacher une autre. Donc, en réalité, quand on commence à introduire une catastrophe pour le début du monde, on en introduit une pour le début de la vie, on en introduit une pour les origines de l'homme. Donc, on accumule les catastrophes. Donc, il y a quand même, au départ, il y a vraiment deux écoles très, très différentes, les évolutionnistes et les catastrophistes. Bon, mais les évolutionnistes ne nient pas que les catastrophes n'existent, simplement, ils refusent que ça soit les catastrophes qui organisent l'univers et qui organisent le monde.
Qui fassent avancer l'histoire, finalement.
Voilà. Alors, les catastrophistes ne nient pas l'évolutionnisme et les lois de la physique, mais pour eux, ce qui est premier et ce qui module, ce qui fait que les choses existent, ce sont quand même les catastrophes. Alors maintenant, si on regarde aujourd'hui même, là, honnêtement, c'est les évolutionnistes, les cosmogonistes évolutionnistes ont définitivement, ou en tout cas actuellement, pignon sur rue, c'est eux qui sont les maîtres de la cosmogonie. Avec toutefois une catastrophe au départ. C'est-à-dire que si le système solaire est né d'un grand nuage, comme on en voit des millions qui se promènent dans l'univers, et dans notre galaxie en particulier, il faut bien expliquer qu'à un moment, ce nuage va amorcer une évolution et se transformer en une étoile centrale et des planètes qui tournent autour, donc en un système planétaire tel que l'est le système solaire. Mais il faut bien que quelque chose se passe pour amorcer cette condensation.
Une catastrophe au départ.
Donc il y a quand même une catastrophe au départ et après ça évolue selon les lois de la physique, de la chimie.
Et c'est intéressant de voir au fil de votre livre l'explication de ces catastrophes, l'explication de grandes questions comme l'origine de la chaleur du soleil.
Oui, bien sûr.
Qui, selon certaines théories, serait constamment bombardé de météorites.
Voilà.
Des planètes qui se seraient formées avec un filament qui sortirait du soleil et puis une solidification. C'est une série d'histoires qui étaient, au moment où elles ont été proposées, scientifiquement valables. Maintenant, voilà. Peut-être questionnées, mais encore maintenant, on s'en raconte des histoires.
Bien sûr. Le vrai problème, c'est pas de se poser la question « Est-ce qu'une cosmogonie est vraie ou fausse ?» La question qu'on se pose, et quand on choisit ce qu'on appelle un modèle cosmogonique, c'est la validité de cette théorie. On choisit humainement, on peut faire plusieurs théories qui donnent le système solaire, mais naturellement, l'homme choisit la plus simple, entre guillemets, parce que la notion de simplicité n'est pas une notion très simple en réalité, parce qu'il faut se donner des critères de simplicité. Et donc, en général, on choisit la théorie la plus simple qui explique le plus de choses possibles, le plus de choses observées. C'est-à-dire ce sont des allers-retours entre la théorie et l'observation. Et une théorie est validée, elle n'est jamais prouvée. Une observation nouvelle peut conforter une théorie, elle ne prouve jamais sa vérité. Alors qu'une observation nouvelle peut envoyer dans les oubliettes de l'histoire une théorie.
Alors, on n'a pas fini. C'est une histoire que vous n'avez pas fini de suivre.
Alors, aujourd'hui, maintenant, vous avez des cosmogonistes du système solaire et vous avez des cosmogonistes de tout l'univers, ce qui est un problème totalement différent. Donc, Le Seuil aimerait que j'écrive un deuxième volume sur aux origines de l'univers. Donc, si j'en ai le courage, il y aurait un deuxième volume sur la naissance du cosmos considéré comme un tout.
Pour l'instant, celui-ci, il est là, on l'a entre les mains, il est disponible, voilà. Il s'intitule « Aux origines du monde, une histoire de la cosmogonie ». C'est vous, Jean-Pierre Verdet, qui l'a signé aux éditions du Seuil.
Oui.
Je rappelle aux auditeurs que vous êtes astronome, vous avez fait votre carrière d'astronome à l'Observatoire de Paris. Ensuite, vous êtes tombé dans l'histoire de l'astronomie, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'astronomie. Et on attendra le prochain « Aux origines de l'univers ». Merci beaucoup de cet entretien.
Voilà, merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin, les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan, Chantal Srivastava et notre stagiaire de la Bourse Fernand Seguin, Mathieu Gobeil. Au site internet, Louis-André Bertrand, à la chronique Hervé Fischer. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à l'écoute de Radio-Canada et revenez-nous dimanche prochain pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.